Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour et bienvenue dans 90 minutes info, le débat, les thèmes abordés. Je vous présente tout cela juste après le flash info de Mathieu Devez.
La grippe continue sa progression dans le pays. L'épidémie frappe actuellement toutes les régions de métropole et la majeure partie de l'outre-mer après avoir gagné la Guadeloupe et la Guyane. Les hospitalisations ont doublé en une semaine, environ 1500 cas en Île-de-France. La bronchiolite, quant à elle, ralentit mais reste à un niveau élevé. Près de 2000 bébés ont encore été hospitalisés la semaine dernière en métropole. La Russie va continuer à développer son potentiel militaire, y compris nucléaire. Vladimir Poutine l'affirme lors d'une réunion avec des hauts gradés de l'armée. Le président russe annonce notamment l'entrée en service début janvier des nouveaux missiles hypersoniques. Kylian Mbappé déjà de retour à l'entraînement du Paris Saint-Germain, seulement 2 jours après le retour des Bleus du Qatar. L'attaquant était ce matin au camp des loges. Le PSG avait pourtant décidé d'accorder à chaque joueur engagé 10 jours de repos à partir du jour de leur élimination. Le retour précoce de Kylian Mbappé réjouit forcément Christophe Galtier, l'entraîneur parisien.
Bienvenue à tous dans notre émission. On vous le souhaite joyeux, surtout on vous souhaite d'arriver à temps, d'arriver tout court même. Les Français qui risquent de rater Noël en famille se comptent désormais en dizaines de milliers. Écoutez.
Moi qui l'ai subi en 2019, je trouve ça simplement inadmissible.
C'est scandaleux, c'est vrai. Enfin, je veux dire, on sait ce que c'est que la SNCF, on a le record du monde des grèves.
Et puis, une fois arrivée à destination, la table sera-t-elle aussi garnie que d'habitude? C'est une fin d'année particulièrement difficile pour le portefeuille et qui oblige à faire des choix sur les mets de fête habituels.
C'est de trouver le meilleur rapport qualité-prix parce qu'effectivement, tout a augmenté. Donc, il faut raison garder, y compris pour Noël.
Chacun paie sa part, donc voilà, ça facilite les choses.
Je suis invitée en famille, mais... J'hésite à y aller parce que j'ai pas envie qu'elle a des dépenses, qu'on a une famille nombreuse quand même.
Silence, on tue à petit feu. On vous parlera du choc, du drame même que vivent les femmes afghanes qui ne pourront plus aller à l'université. Le régime taliban applique le même programme qu'il y a 25 ans et prive toute une génération de l'accès à l'éducation. Écoutez.
J'ai appris cette nouvelle aujourd'hui et j'ai ressenti des sentiments terribles. J'ai déchiré tous mes cahiers car ce n'est pas une vie à vivre pour nous. Car les talibans ne nous permettent pas de poursuivre nos études.
Et pour m'accompagner cet après-midi, Judith Weintraub est là. Bonjour, grand reporter au Figaro Bonjour. Magazine. Merci de nous avoir rejoints. À vos côtés, Charles Zizenstuhl, député Renaissance du Bas-Rhin. Merci Bonjour. D'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Bonjour Ludovine de la Rochère.
Bonjour Nelly.
Je rappelle que vous êtes présidente de la Manif pour tous. Et à vos côtés, Tancred Guilto qui va nous éclairer justement sur les difficultés liées à ces déplacements à la SNCF. Chaque année ou presque, c'est la même histoire. Je ne vous parle pas des retrouvailles en famille qui, pour le coup, risquent d'être bien compromises hein, pour certains. Je vous parle bel et bien de la grève SNCF. On devrait même dire la grève de Noël, tellement elle est récurrente. Ça devient insupportable pour beaucoup de Français. 200 000 d'entre eux sont concernés par les annulations de train à compter de ce vendredi pour ce préavis qui a donc été déposé par les contrôleurs de train. Des messages courts, sans explication, vous annoncent que bien votre train, tout simplement, ne circulera pas. On va faire le point justement avec Mickaël Dos Santos qui nous attend à la gare Montparnasse dans le 14e arrondissement. Bonjour, est-ce que c'est panique à bord pour les passagers croisés aujourd'hui? Est-ce que vous les avez vus aux abords des guichets tentant de trouver coûte que coûte une solution?
Alors si certains usagers ici hein, soutiennent le mouvement de grève, ils ne sont vraiment pas nombreux. Après 2 ans de pandémie, beaucoup d'entre eux sont à nouveau privés de fêtes en famille, des fêtes de fin d'année ou doivent trouver des alternatives, ce qui n'est pas toujours évident et souvent très très cher, des suppressions qui suscitent la colère et l'indignation.
Je les soutiens quand même, hein, moralement. Mais bon, je trouve que c'est pas juste pour les,
les travailleurs, ceux qui peuvent partir que le vendredi, puisqu'ils vont se faire sur le week-end.
Ça sert à rien de prendre en otage des gens qui n'y sont pour rien. Nous, on peut rien faire. Ça flingue juste les fêtes de Noël. Moi, j'ai mon train annulé du retour. Je peux pas l'annuler sur Internet. Là, ça fait déjà 1h30 que je fais la queue. J'en ai encore pour 1h30.
Et voilà, vous l'avez entendu, cette dame qui nous parle d'une queue d'une heure à une heure et demie. Selon la SNCF, la file d'attente serait plutôt de 10 minutes. À vrai dire, la file d'attente va assez vite. Les usagers sont tout simplement accueillis de manière assez rapide ici à la gare Montparnasse. Il faut savoir que pour échanger le billet ou tout simplement se faire rembourser, ils ont été invités, ces usagers, à se rendre ici à la gare Montparnasse. Et ils sont accueillis ici par des agents, de nombreux agents, puisqu'il y a eu pas mal de renforts. À vrai dire aussi, s'ils viennent à la gare Montparnasse, c'est qu'ils ont rencontré de nombreux dysfonctionnements sur la plateforme Internet, notamment au moment de se faire rembourser leur billet.
Merci beaucoup, merci à vous pour toutes ces précisions. Écoutez aussi ce qu'en disait Carl Olive, député Renaissance des Hauts-de-Seine, un de vos collègues, sur, au fond, ce qu'il appelle, lui, les emmerdes partagées.
Bien sûr que ça me met en colère et encore une fois, on va nous annoncer que c'est une grève finalement à l'insu de leur plein gré. Vous savez, il y avait un slogan de la SNCF qui disait que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. On dit le progrès, on ne dit pas les emmerdes. Là, les emmerdes ont l'impression qu'elles sont partagées par tous. Mmh. Et qui va encore pâtir de cela? Des Français, dont certains, des 200 000, n'ont pas pu voir leur famille depuis des mois, dont certains, de vieilles générations ou de personnes à mobilité réduite, n'avaient d'autres moyens que d'utiliser les transports en commun et ferroviaires. C'est insupportable.
Ludovine de la Rochère, on ne peut pas s'empêcher de penser quand même que tout cela aurait pu être anticipé et que s'il y avait des revendications et des desiderata de la part de ces contrôleurs, comme d'autres d'ailleurs corporations de la SNCF. Ils auraient pu le signaler à leur direction fin novembre. Je crois que début décembre, il y a des propositions qui ont été faites. Pour l'instant, c'est resté lettre morte.
C'est tout à fait volontaire de leur part d'être, on le voit bien, hein, de choisir le moment le plus difficile, le plus impactant, le plus sensible pour nos concitoyens. C'est une forme de chantage. Et à vrai dire, je ne soulignerai pas ou je n'insisterai pas trop sur le fait que la SNCF a un déficit considérable, que nous, Français, nous payons. Les retraites des personnes qui travaillent à la SNCF sont financées pour une bonne part par les cotisations des salariés du privé, etc., etc. Les salariés du privé travaillent beaucoup plus. Ils n'ont pas du tout les mêmes avantages que ceux de la SNCF. C'est absolument invraisemblable, ne serait-ce qu'en termes d'inégalité entre les uns et les autres. Et d'autre part, ils sont service public, ils ont tous ces avantages parce qu'on considère qu'ils sont nécessaires au bon fonctionnement du pays. La liberté de circulation est une liberté fondamentale. Mais ce qui me frappe encore plus que tout, c'est qu'ils contribuent, ils participent et ce sciemment à la dislocation du vivre ensemble dans la société française, du lien, de la solidarité, de l'humanité. Dans une société en grande difficulté, en crise et à bien des égards. C'est déplorable, c'est absolument honteux, c'est un corporatisme en effet. Ils tiennent à leurs privilèges et ils voudraient en avoir encore un peu plus.
Judith Weintraub, c'est un peu facile comme méthode. C'est-à-dire, on le fait parce qu'on sait qu'on peut et que de toute façon, ça aura un impact. C'est un peu... c'est presque... dégradant, je veux dire, par rapport à leur fonction.
Mais une fois qu'on a dit ce que vous venez de dire et ce qu'a dit à juste titre Ludivine de la Rochère, la question est qu'est-ce qu'on fait ? Alors, en 2007, vous vous en rappelez, Nicolas Sarkozy se vantait d'avoir instauré un service minimum qui n'a aucune efficacité dans ces cas-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas assorti du droit de réquisition qui s'oppose en France à notre conception du droit de grève. Service minimum sans réquisition possible, c'est comme s'il n'y avait pas de service minimum. On le voit actuellement. Deuxième élément, donc moi je suis pour instaurer un droit de réquisition et puis surtout qu'on en finisse une fois pour toutes avec ce service public immense, cet État qui fait des choses qu'il ne devrait pas faire. Je rappelle juste le différentiel du nombre de fonctionnaires entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne, 83,3 millions d'habitants, 1,5 million de fonctionnaires. La France, 67,3 millions d'habitants. On est à presque 6 millions de fonctionnaires. Évidemment. Alors, ce qui se passe en Allemagne, ce sont des salariés de droit privé qui font des missions de service public, éventuellement avec l'argent public. Ça se passe beaucoup mieux. J'ajouterai qu'en Allemagne, les fonctionnaires qui restent n'ont pas le droit de grève, quelle que soit leur activité.
Alors, je rappelle quand même qu'il y avait des négociations. Il y a eu des propositions sur la table, Charles Zenschul. On va les regarder. Tiens, on leur a proposé des choses pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours. Regardez, 600 euros d'augmentation de la prime de travail des chefs de bord, 600 euros d'indemnité supplémentaire par an, c'est-à-dire une hausse quand même. Par les temps qui courent, hein, c'est pas négligeable, de 200 euros net par mois pour un contrôleur qui est en milieu de carrière, c'est-à-dire que chaque année, on gratte un petit peu plus sur l'ensemble de la période. Sur 2 ans, ils ont eu quand même 12% d'augmentation. Tous les Français ne peuvent pas en dire autant.
Loin de là.
Loin de là.
Absolument. Je pense qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui aimeraient avoir ce type d'augmentation. Et ce qui est en train de se passer en ce moment à la SNCF, c'est une mauvaise histoire qui se répète maintenant tous les Noëls. Tout ça devient lassant, agace les Français, n'honore pas le service public, ne donne pas une bonne image également des cheminots, il faut le dire. Et d'autant plus que c'est une minorité, une fois de plus. Nous sommes dans le diktat, la tyrannie des minorités. C'est une minorité de cheminots qui prend en otage la totalité de la profession, qui pénalise beaucoup de Français.
Oui.
Pour le moment, selon les dernières informations que nous avons, 2/3 des trains devraient rouler ce week-end, mais donc ça veut dire qu'il y a un tiers qui ne va pas rouler. Et puis vous avez donné ce chiffre, puis moi j'espère surtout que ce conflit ne va pas durer. Une partie des syndicats ont d'ailleurs applaudi les propositions qui ont été faites par la direction de la SNCF, et puis il y a une autre partie des syndicats qui joue le durcissement. Et franchement, tout ça n'est pas très respectueux des Français. Je terminerai en disant, pour rebondir à ce que disait Judith Vintraube, la réforme de la SNCF, elle a été faite. Elle a été faite sous le mandat précédent d'Emmanuel Macron en 2019. Le statut est éteint pour les nouveaux entrants.
Avec clause du grand-père.
Et donc, on va vivre pendant quelques années avec un double statut. Mais donc, j'en appelle et on en appelle aussi à la responsabilité des cheminots. On ne peut pas comme ça mettre les Français en difficulté.
Visiblement, ils ne s'en font pas la même conception aujourd'hui. J'aimerais juste, et avant de reprendre le débat, qu'on ait donc cette illustration, parce que vous parliez des 2/3 des trains qui étaient annulés. Moi, j'ai l'impression, quand j'écoute les uns et les autres, que c'est beaucoup plus, en fait.
Connaît une proportion extraordinaire.
Voilà, par cercle concentrique, quand même, ça se rapproche de nous. C'est votre cas, Tancrède Guillotel. Vous travaillez à la rédaction, vous êtes l'un de nos journalistes. Alors vous deviez vous rendre à Saumur. Saumur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le Maine-et-Loire, ce week-end, donc pour les fêtes, tout ce qu'il y a de plus classique, pour retrouver les vôtres. Mais avec la grève des transports, et donc comme c'est de fameux 200 000 Français concernés, ça s'avère plus compliqué que prévu. Racontez-nous vos mésaventures, si je puis dire.
Effectivement, Nelly, je prends mes billets vendredi dernier pour un aller-retour du samedi 24 au dimanche 25, donc tout ce qu'il y a de plus classique pour les fêtes. À ce moment-là, tous les trains sont disponibles, à savoir 26 trains de prévus sur la journée exactement. Et puis Clément Beaune déclare il y a une semaine être assez confiant dans le fait qu'il n'y aura pas de fortes perturbations pour les fêtes. Donc je suis peut-être un peu naïf, mais à ce moment-là, je suis assez optimiste.
Et puis donc la douche froide, vos trains sont annulés, les deux d'ailleurs, c'est ça qui est important.
Mais oui, comme beaucoup d'utilisateurs concernés, je suis prévenu par message que mes trains sont annulés hier, avec la possibilité d'être remboursé ou de pouvoir les échanger. Donc un remboursement de 200% a même été annoncé par la SNCF, mais ce qui est assez exceptionnel. Mais dans les faits, c'est plus compliqué que prévu, puisque pour l'aller, tous les trains qui restent disponibles entre vendredi après-midi et samedi soir, en fait, sont tous complets, affichent tous complets.
Alors vous avez réussi quand même?
Oui, alors j'ai réussi à échanger le retour, déjà, donc ce qui était bien. Coup de bol. Et puis là, 2 heures après, nouveau message, ce train est aussi supprimé.
Incroyable.
Donc la SNCF a prévenu depuis que seulement 2 trains sur 3 pourront rouler ce week-end, avec des TGV qui sont surtout impactés. Et les intercités, eux, sont globalement épargnés.
Oui, mais pour l'aller, finalement, comment vous allez faire?
Eh bien, pour l'aller, j'ai dû passer par le covoiturage, justement. J'ai pu trouver un trajet Paris-Angers pour la somme de 39 euros, ce qui reste dans la même tranche de prix que pour les trains.
Oui, donc pas de gain particulier, quoi.
Pas de gain particulier, mais si vous n'avez plus de train, sachez que pour un trajet en covoiturage, pour Valence, par exemple, depuis Paris, il faudra compter plus de 60 euros. Pour Nantes, ce sera autour de 45 euros. Et pour un Paris-Strasbourg, autour de 50 euros.
Ouais, d'accord.
Sachant que là aussi, de nombreux trajets sont déjà complets. Pour un Paris-Strasbourg, justement, le 24, sur les 8 covoiturages proposés, 6 sont déjà complets. Et puis, le covoiturage, c'est assez pratique quand vous habitez à proximité de gros axes routiers. Mais quand vous êtes à l'écart des grosses agglomérations, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Il faut être plus chanceux.
Plus chanceux, oui.
Exactement. Et puis, c'est moins pratique que le train, c'est sûr, et c'est beaucoup plus long.
Vous voyez, on est obligé de recourir à des trésors d'imagination pour pouvoir juste aller voir ses parents.
Tout le monde se précipite, est en train de se précipiter au même moment depuis quelques heures sur toutes les applications de covoiturage, sur les cars, et donc beaucoup de solutions sont déjà complètes. En faisant un petit calcul, 200 000 personnes qui seraient privées de train, et en effet, qu'est-ce qui nous dit que c'est bien 200 000, on n'en sait rien finalement, personnes qui allaient rejoindre leur famille ou se retrouver en famille, en moyenne, un ménage français, c'est 2,19 personnes. Et en général, pour Noël, on se retrouve des grands-parents jusqu'aux petits-enfants.
Une dizaine, quoi.
Voilà. Ça veut dire environ 1 million de personnes impactées pour Noël. C'est considérable.
Oui.
Honnêtement, c'est tout à fait écœurant de la part de ces quelques contrôleurs qui veulent obtenir des augmentations sur le dos des Français.
Et puis là, on n'en parle pas, mais ça suppose aussi d'avoir une petite trésorerie quand même. Parce que, en admettant que vous fassiez rembourser votre trajet à 100 ou 150 euros, même à 200% de remboursement, ça ne va pas être immédiat. Or, Noël, c'est dans moins d'une semaine. Ça veut dire qu'il faut avoir de l'argent d'avance pour pouvoir prendre l'itinéraire bis. C'est ça qui est un peu,
et puis
pardonnez-moi du mot, mais un peu dégueulasse
Airbnb,
quand même.
Airbnb, etc. Et toutes autres solutions de vacances pour
ceux
qui ne vont pas dans une maison de famille et qui ont réservé quelque chose.
Bien
il
sûr.
Y a toute une série d'impacts en chaîne pour des commerçants, pour des locataires.
En gros, si vous n'avez pas d'argent d'avance, eh bien, vous êtes coincé chez vous. Mais il y a des solutions, il y a des solutions. Alors, les recherches de vols domestiques, par exemple, elles ont quadruplé. Depuis l'annonce de la grève sur l'Iligo notamment. Et puis, il vous reste aussi la solution Flixbus, vous savez, les fameux bus Macron. Encore que là aussi, vous allez le voir, les autocars se remplissent assez rapidement. Regardez ce reportage.
Pour retrouver leur famille à Noël, ces voyageurs ont choisi le bus plutôt que le train. Premières raisons invoquées, des TGV souvent complets et des prix trop élevés.
Tous les trains sont complets et les seuls qui existent, ils sont aux environs de 200 euros.
Le choix est vite fait. Je suis en vacances, donc je préfère prendre 2 heures de plus en bus.
Pour le trajet que je veux faire, on est 10 fois moins cher sur un trajet de bus que sur un trajet de train. Donc ouais, j'ai comparé et l'économie, il n'y a rien à dire sur le bus.
Autre motif, la grève des contrôleurs de la SNCF ce week-end.
On a décidé de prendre le bus parce qu'on avait peur des grèves de la SNCF et on ne voulait pas rester bloqué ici pour les vacances. Il y a des gens comme moi qui habitent à l'étranger, qui rentrent une fois par an et qui n'ont pas envie d'être embêtés par des choses comme ça.
En tout, 12 000 tickets ont été vendus par Flixbus ces derniers jours, mais beaucoup ont été réservés bien plus tôt.
Depuis le début du mois, au fur et à mesure qu'il y avait les annonces et grèves qui sont confirmées, les gens ils ont réservé beaucoup à l'avance.
Ce week-end de Noël, 100 000 personnes voyageront avec cette compagnie de bus.
Regardons ce que nous disait Clément Beaune, le ministre des Transports, c'était hier. Une semaine, il disait alors, le ministre, être confiant, il était même rassurant, on va peut-être vous retrouver le verbatim de ce qu'il annonçait. Je suis assez confiant qu'il n'y aura pas de fortes perturbations sur le réseau ferré, il y aura des trains, il y aura des avions. Charles Izensoul, c'est un peu aussi un désaveu pour la manière qu'a l'exécutif de pouvoir gérer ces conflits sociaux Il s'avance un peu là.
Il ne faut pas déformer ce qu'a dit le ministre des Transports.
Bon,
le ministre des Transports, il a dit qu'il y aura des avions et qu'il y aura des trains. Pour le moment, les chiffres qu'on a d'ailleurs, que vous avez confirmés, c'est qu'on est pour le moment sur 2 trains sur 3 qui circulent.
C'est un tiers, c'est pas de forte perturbation.
C'est 2 tiers. C'est 2 tiers pour le moment.
Non, mais un tiers de perturbation, c'est
les chiffres que j'ai. Un tiers de perturbation, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. C'est des dizaines de milliers de Français et de familles qui sont pénalisés. Mais la question qui était posée au ministre des Transports, c'était est-ce qu'il n'y aura aucun train à Noël ? Ce n'est pas le cas. Attendez, faut pas déformer.
Vous le défendez bien.
Non, moi, ce qu'a dit Clément Beaune.
Il n'y aura pas de perturbations, un tiers, excusez-moi.
Ce sont des perturbations importantes, je vous le reconnais. Mais moi, les
perturbations importantes ou de faire fortes perturbations.
Le fait qu'on est sur 2 tiers des trains qui vont circuler pour le week-end de Noël, moi, ce sont les informations que j'ai depuis plusieurs jours. Et c'est ce que le gouvernement dit depuis plusieurs jours.
Vous reconnaissez même que ce sont des perturbations importantes.
Importantes, bien entendu.
Le ministre avait dit qu'il n'y aurait pas de fortes perturbations. Je ne vois pas bien la différence entre le fort
et
l'importante.
Fort et importante, ça n'a rien à voir.
Excusez-moi.
Ça n'a rien à voir.
Allez, Julie Ventrop pour la réponse et puis après on passera à autre chose.
Évidemment que Clément Beaune a mal appréhendé la situation. Et vraiment, je ne suis pas sûre que 2 trains sur 3 circulent. Moi, j'attends des confirmations. Ça ne correspond pas du tout au sentiment qu'on en a, nous, au journal, quand on fait des sondages.
Figaro.
Au Figaro. D'une part ça.
Et puis ils ont jusqu'à 17h pour prévenir aussi des annulations, donc ça peut encore intervenir.
Mais une fois qu'on a dit ça, excusez-moi de me répéter,
qu'est-ce qu'on fait ?
Est-ce qu'on cède, c'est-à-dire qu'on aggrave le déficit, qu'on aggrave la contribution que tous les Français payent pour la SNCF et singulièrement pour les retraites de la SNCF, ou est-ce qu'enfin... on examine sérieusement la réquisition, qui est le seul moyen, quand on est pris en otage de cette façon-là, et même pas par les syndicats, puisque en l'occurrence, les syndicats suivent le mouvement, un mouvement qui n'arrive pas du tout à relayer ni à contrôler.
Charles Zenschul, quand même, ça vous paraît très grossier et incroyable, comme le suggérait tout à l'heure Judith Ventrop, qu'on applique dans ce pays un service de réquisition pour ce genre de services aux usagers. Mais ils sont des services minimums, en fait.
La réquisition, elle s'applique dans le cas où le service est interrompu. On l'a vu d'ailleurs il y a quelques semaines lors des problèmes.
Mais vous imaginez le volume de voyageurs à Noël par rapport à l'ordinaire, un week-end ordinaire.
Attendez.
Mais si, quand même.
Moi, je ne suis pas là pour défendre les...
Vous appartenez à cette majorité.
Je crois que nous sommes tous très agacés. Ce matin, le porte-parole du gouvernement a aussi eu l'occasion de passer quelques messages extrêmement fermes vis-à-vis des grévistes. C'est vraiment pas le moment de faire grève et il faut pas pénaliser les Français. Pour le moment, les estimations que nous avons, qui sont fournies par la SNCF, à date, c'est que on est sur une circulation de 2/3 du réseau. 1/3 du réseau qui ne tourne pas, c'est beaucoup trop. C'est scandaleux vis-à-vis des Français qui sont pénalisés et il faut que les syndicats, les personnes qui se mobilisent dans les syndicats pour bloquer ces trains, aient un peu de responsabilité, puis surtout aussi, je crois, d'humanité. Quoi. Je veux dire, c'est les fêtes, c'est Noël.
Et vous savez quoi ?
C'est à l'État d'intervenir, c'est à l'État de trouver les moyens que ça ne se reproduise pas.
Et moi, je désapprouve, pour que ce soit très clair, parce que je désapprouve totalement
cette méthode.
Les cheminots, la minorité de cheminots qui bloquent.
Il y a un service de réquisition pour ce qui est des raffineries, hein, quand il y a des blocages.
Oui, mais quand c'est arrêté. Bon,
d'accord, alors là où je sens les mots. Vous savez, il y a une différence. Il y a une différence entre les prévisions et la réalité.
Mais quand il y a eu réquisition dans les raffineries, 100% des raffineries n'étaient pas en arrêt.
Il y avait des endroits du territoire. Certaines raffineries ont été réquisitionnées parce qu'il y avait des départements où il n'y avait plus rien.
Mais ce n'est pas la totalité qui doit être arrêtée.
Tout ça est nuancé. Ce n'est pas tout blanc, tout noir. Est-ce qu'un tiers, pour prendre les chiffres officiels, des trains qui ne circulent pas, c'est une situation d'urgence.
C'est scandaleux. Ah bon,
qui s'avérera être plus. Qui s'avérera peut-être être plus.
Morale. Normalement, vous êtes de la couleur des gens qui nous gouvernent et du président de la République. Donc le constat moral, on peut le faire. Nous, on n'a aucune influence sur ce qui est décidé par l'exécutif. Le constat moral, la condamnation, on sait faire.
Ludovine,
vous faites quoi?
Ouais, bon, allez, on va pas le corneriser non plus, mais enfin, bon, je veux dire, il est tout seul pour se défendre. Moi, j'ai une question très simple. Est-ce qu'il faut réquisitionner, même quand le service n'est pas interrompu, de manière à ce que les gens puissent retrouver leurs parents, leurs grands-parents,
pour qu'il y ait des réquisitions. Enfin, je veux dire, la réquisition est quelque chose de... un acte ultime dans notre corpus juridique, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Pour le moment, ce n'est pas possible de le faire.
D'accord, mais année après année, ça empoisonne les Français, quoi.
Ce n'est pas possible de le faire.
C'est ça le problème.
Et pour le moment, ce que le gouvernement dit, ce que Olivier Véran a dit, ce que le ministre des Transports dit, c'est nous appelons à la responsabilité de la minorité des grévistes qui bloquent les trains. Pour le moment, les prévisions, et je suis prudent, mais à date, les prévisions, c'est que 2/3 du réseau fonctionne. 1/3 qui ne fonctionne pas, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, et que ceux qui bloquent, voilà, attendent peut-être quelques jours s'ils veulent en découvrir.
On verra à l'arrivée si c'était vraiment un tiers de blocage.
Noël sera passé. Pardonnez-moi, c'est un moment particulier pour tous les Français, et j'allais dire dans le monde entier. C'est quand même un tiers, si ça n'est encore.
Mais je suis d'accord.
Tiers, c'est considérable.
Mais allez le dire aux grévistes. Enfin, je veux dire, encore une fois, ce n'est pas le gouvernement.
Non, mais pardon. Mais nous, on lance des pistes.
La SNCF est une entreprise. Il y a là-dedans des personnes qui sont employées, et puis vous avez des personnes qui manifestement doivent être syndiquées ou non d'ailleurs, et qui ont décidé de se mettre en grève pour
mais
bloquer.
Vous êtes législateur, vous pourriez dire on devrait renforcer la possibilité des réquisitions. Voilà,
pardon, ce n'est pas
question.
Le gouvernement, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le ministre des Transports qui a décidé de cette situation.
Non, mais évidemment, vous enfoncez de partout ouvertes, pardonnez-moi.
Ah là, oui, mais là, depuis quelques minutes.
Mais non, mais la question, c'était.
Le débat est on est en train d'inverser la culpabilité. Ceux qui sont en train de bloquer, c'est une minorité de cheminots et de grévistes.
Alors, les mairies renvoient vers l'État, l'État renvoie vers les mairies, vous renvoyez vers la SNCF qui doit renvoyer probablement à l'État. Et nous, on vous dit, est-ce que vous seriez favorable à ce que les réquisitions soient plus accessibles et plus facilement, qu'il soit plus facilement possible de les mettre en place? Je voudrais souligner une chose.
On pourrait peut-être envisager une proposition de loi plus tard.
Voilà, c'est tout. C'était ça la question.
Et à départ.
Allez, une dernière réaction.
Il y a pas le droit de grève à valeur constitutionnelle.
Dernière réaction, le devoir de la recherche.
Il y a toute une partie des villes françaises qui sont quand même très loin. Vous allez à 4h30 aujourd'hui en train à Pau, en 5h30 à Toulouse, à Toulouse par exemple, vous allez mettre 10 heures voire 12 heures en car ou éventuellement en covoiturage. Et donc, même pour ceux qui ont la chance de trouver une solution, ça n'est pas forcément jouable.
Allez, on en reparlera. Il y a encore demain avant le début de la grève et on aura la réalité des chiffres aussi au moment où elle sera appliquée. On marque une courte pause et on revient pour parler de l'inflation. L'inflation sur les mets de Noël, ça va coûter très très cher de pouvoir faire un repas comme il se doit quand on aura la chance de retrouver les siens. À tout à l'heure. De retour dans 90 minutes info, le débat va reprendre juste après le journal signé Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. C'est un Noël au goût amer qui s'annonce. Quelques 200 000 voyageurs ont été d'ores et déjà avertis que leur train était supprimé pour ce week-end. La SNCF prévoit 2 trains sur 3 en moyenne en raison de la grève des contrôleurs. La SNCF, qui s'excuse, annonce que les billets en cas de train supprimé seront remboursés à hauteur de 200%. Des mouvements écologistes de plus en plus violents, c'est ce que relève une note des renseignements territoriaux dévoilée par nos confrères du Parisien. On se souvient tous bien sûr de la manifestation anti-bassine de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Eh bien, en Vendée aussi, les agriculteurs s'inquiètent de la tournure que prennent les actions commises par ces mouvements. Mickaël Chailloux a rencontré l'un d'entre eux.
Le site est sécurisé sous surveillance vidéo. Charles-Henri Nolo pilote une des 19 exploitations raccordées à la réserve de Pouillé, 857 000 m3 dans le sud Vendée. Il passe devant quotidiennement.
Certains de mes collègues sont toujours inquiets de se retrouver nez à nez avec ce genre de personnes, puisqu'on ne peut pas savoir quelles seraient les réactions des uns et des autres. Ces gens sont antidémocratiques.
Dans la nuit du 8 au 9 août 2022, des militants écologistes ont saboté les deux principales réserves du sud Vendée, à Pouillé et Naillé. Coût total des réparations, 1 million d'euros. Une action revendiquée par les collectifs anti-bassines sur les réseaux sociaux.
Ils sont sur des réseaux à haranguer les gens, à vouloir venir détruire, tout simplement détruire. On a l'impression que nous ne sommes plus en démocratie.
Dans le sud Vendée, les réserves de substitution sont surveillées comme le lait sur le feu, encore plus depuis la manifestation violente de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres voisines. Pour l'heure, les auteurs des dégradations sur les bassines vendéennes n'ont pas été appréhendés.
Emmanuel Macron en Jordanie, le président français a rencontré le roi Abdallah II. Les deux chefs d'État ont échangé sur les défis en Syrie et au Liban, ainsi que sur les problèmes que rencontre le processus de paix dans le conflit israélo-palestinien. Une rencontre qui intervient en marge de la conférence Bagdad 2, dont la première édition s'était tenue dans la capitale irakienne en août 2021. Et puis deuxième épisode de notre série de 5 reportages consacrés aux soldats français en opération extérieure au Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous avons pu suivre un jeune pilote pendant une de ces opérations, mission durant lesquelles les combats contre les positions de Daesh continue tous les jours entre entraînement et mission opérationnelle de guerre. Reportage d'Antoine Estève.
Nous avons la chance d'assister au briefing des pilotes. Pour cette mission d'entraînement au-dessus du désert, chacune des manœuvres doit être préparée en amont. Les avions Rafale, déployés en ce moment au Moyen-Orient, sont des biplaces.
Le pilote, lui, s'occupe à gérer la trajectoire de l'avion et la partie pilotage à court terme de la mission. Tandis que le navigateur, lui, va s'occuper à gérer l'armement du Rafale et le guidage de l'armement jusqu'à l'objectif.
Même pour un vol d'exercice, il ne faut rien laisser au hasard. Les pilotes reçoivent les dernières consignes des différents spécialistes qui les assistent.
À chaque fois qu'ils partent en vol, il y a un briefing donc météo, un briefing sur le contrôle aérien et également un briefing renseignement où on leur donne donc tous les éléments techniques du vol. Et aussi, donc on est là pour les tenir au courant de la situation géopolitique des territoires survolés.
L'objectif du jour, c'est de travailler le show force, une posture très agressive de l'avion de chasse, qui consiste à effrayer les groupes armés en faisant beaucoup de bruit.
En étant très bas et très vite, finalement, les personnes au sol vont nous voir au dernier moment, comme vous avez pu voir, et à ce moment-là, provoquer cet effet de surprise qui va faire peur potentiellement d'éventuels ennemis.
Après 2 heures de vol, une dizaine de passages en rase-motte et des largages factices de bombes, l'appareil rentre à la base.
On est quand même content d'enlever le casque et de retrouver un peu la liberté de mouvement qu'on n'a pas forcément dans le cockpit, parce que le cockpit, malgré tout, il est assez étriqué. Et avec tout l'équipement qu'on porte sur nous, on a parfois un peu de mal à se mouvoir dans le cockpit.
Le capitaine Dorian a 30 ans et il cumule déjà 800 heures de vol, dont une grande partie en mission opérationnelle, à la chasse des groupes terroristes dans le désert, entre Syrie et Irak.
Volodymyr Zelensky attendu à Washington, il doit être reçu aujourd'hui à la Maison-Blanche par Joe Biden avant de s'adresser au Congrès américain. Le président ukrainien qui a confirmé tout à l'heure sur Twitter qu'il était en route pour les États-Unis pour renforcer les capacités de résilience et de défense de l'Ukraine. Une visite qui s'annonce déjà historique. Volodymyr Zelensky n'a pas quitté son pays depuis l'invasion russe par la Russie le 24 février. Voilà pour l'actualité. C'est à vous, Nelly Denac, pour la suite de 90 Minutes Info.
Merci beaucoup, Mickaël. Toujours en compagnie de nos invités, effectivement, autour de cette table. Alors, on vous a parlé il y a quelques minutes à peine de l'impossibilité de voyager à Noël pour certains. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, à table aussi, ça va coûter plus cher. Regardez ce reportage tourné dans un marché parisien par une de nos équipes, Vincent Fahandège, avec Charles Pousseau.
Sur les étals de ce marché, le constat est sans appel. Tous les prix ont augmenté. Le chapon, par exemple, star des tables de Noël, a pris 2 à 3 euros le kilo. Mais ce n'est pas tout.
Tout a augmenté. Avec la grippe aviaire qu'il y a eu cette année, le canard reste le produit qui a le plus augmenté. Foie gras, en tout cas. Je dirais, entre 40 et 50% par rapport à l'année dernière, sur la même période. Toutes les volailles ont augmenté aussi. Ouais.
18,16 euros, s'il vous plaît.
Les clients font cette année très attention à leurs achats.
J'essaie de trouver le meilleur rapport qualité-prix parce qu'effectivement, tout a augmenté. Donc, faut raison garder, y compris pour Noël.
Chacun paie sa part, donc voilà, ça facilite les choses.
Je suis invitée en famille, mais j'hésite à y aller parce que j'ai pas envie que la dépense, comme on est une famille nombreuse quand même.
Du côté des poissons, certains ont augmenté de 25%. Les vendeurs tentent tant bien que mal de contenir la flambée des prix.
On est obligé de réduire nos marges parce que si vraiment on voulait, si on devait impacter vraiment le prix du poisson, ça deviendrait invendable.
Certains produits sont moins touchés par l'inflation, comme les crevettes ou les coquilles Saint-Jacques.
Bonjour Philippe Gosselin.
Bonjour.
Merci d'être là, de nous avoir rejoints. Vous êtes boulanger, pâtissier. J'ai vu vous regarder avec intérêt le reportage qui précède parce que j'imagine qu'il y a des choses qui vous parlent dans ce qui a été dit. Dans votre secteur aussi, énorme impact. L'énergie, c'est un poste budgétaire important pour vous, sans parler des matières premières. À l'arrivée, est-ce que vous êtes obligé de pratiquer des tarifs beaucoup plus élevés que d'ordinaire ces derniers jours-là?
Oui, nous sommes obligés parce que de toute façon, on va se retrouver sans quoi avec... On va être en perte. Nos entreprises, on ne va pas pouvoir les tenir de toute façon. On est obligés. Nous avons à peu près 70% d'augmentation sur le beurre depuis quelques années, depuis plusieurs mois. Le sucre, on a à peu près la même chose. Même le sel, qui était un produit qui était immuable, qui bougeait quasiment pas, a augmenté énormément également. La levure, bon, l'énergie, on n'en parle pas. Donc, il arrive un moment, si jamais nous évoluons pas sur nos propres prix, l'entreprise ne pourra pas tenir. Parce qu'en fin de compte, on a quand même aussi une entreprise qu'on doit faire vivre. Hein, et on ne doit pas simplement subir, on doit la faire vivre. On a des salariés à payer, on a des charges à payer. C'est ce qui fait vivre l'ensemble de la communauté, c'est normal.
Bien sûr, ouais.
Mais on est obligé, malgré tout, de répercuter ça. Bon, en fin de compte, là, par exemple, pour les bûches de Noël, bon, cette année, nous, sur Paris, on n'est pas trop impacté. Enfin, moi, personnellement, on n'est pas trop impacté parce qu'en fait, on n'a pas un volume exponentiel de bûches. On en vend, mais pas exponentiel comme dans les provinces ou quoi. Mais par contre, sur les galettes ou quoi, avec le prix du beurre, bon, quand même beaucoup de beurre dans les galettes.
Beaucoup de beurre. Ouais.
Donc automatiquement, ça s'y retrouve. Bon, également donc l'électricité, il faut les cuire, etc. Donc en fait, on est obligé d'augmenter nos prix. Mais il faut quand même aussi s'imaginer que c'est quelques centimes. Par exemple, quand vous avez quelques centimes qui augmentent sur le prix de l'essence, vous prenez 60 litres d'essence ou 30 litres. Donc en fin de compte, vous prenez 30 fois ces quelques centimes sur le litre. Quand est-ce que si on augmente, effectivement, si la baguette, par exemple, augmente de 10 centimes, on va prendre une ou deux baguettes. Voilà, ça ne va pas être non plus...
Mais voilà. Par exemple, vous parliez des bûches de Noël. Est-ce que vous sentez quand même déjà dans les commandes des bûches que c'est plutôt à la baisse, quoi, où non. Les gens font attention aussi, regardent la dépense.
Les gens font forcément. Par contre, dans Paris, moi, personnellement, je vous dis, on n'est pas dans un quartier où, en fait, ça bouge beaucoup. Parce que les gens vont. Si jamais on pouvait aller tous, on partirait en province, comme tout le monde, pendant ce week-end qui va tomber un samedi, le 24 qui va tomber un samedi. Donc en fait, personnellement, on n'a pas trop de réaction de ce côté-là parce que déjà, on n'a pas augmenté nos prix cette année sur les bûches de Noël qu'on va faire par contre.
C'est bien. Vous acceptez de ne pas faire trop de marge sur ces produits-là.
On est obligé un petit peu des deux. On est obligé de ne pas en faire de trop, mais on est quand même obligé d'appliquer une augmentation pour que nos entreprises...
Vous avez des coûts qui sont fixes.
Mais comme je vous dis, l'énergie, effectivement, ça augmente. Mais bon, voilà, on était quand même aussi le pays qui payait le moins cher l'électricité en Europe.
Alors, je vais quand même vous faire écouter ce que disait Olivia Grégoire sur les aides dont ces secteurs en particulier vont pouvoir bénéficier. On l'écoute et je vous ferai réagir.
Les boulangers demeurent bien souvent... encore exposés à l'énergie après l'amortisseur. Donc nous mettons en place et nous préservons le guichet qui devait s'arrêter à la fin de l'année sur impots.gouv.fr pour que les boulangers et tous les PME, ça ne s'adresse pas qu'aux boulangers, parce qu'on a aussi des traiteurs qui peuvent avoir des difficultés, que les boulangers dont la dépense énergétique représente toujours plus de 3% du chiffre d'affaires après la prise en charge de l'État, puisse avoir une aide complémentaire.
C'est cumul des deux.
Ah bon. Le guichet devait s'arrêter, nous cumulons les deux. Pour vous donner juste une idée, je ne prends même pas le temps d'un exemple, je ne veux pas être trop longue, ça va permettre de prendre en charge à peu près 25% de la facture d'énergie en direct, ça va permettre de prendre en charge 40% de la hausse de la facture de nos PME et de nos boulangers.
Toute l'année 2023. Alors, vous avez eu le même son de cloche ? Vous avez un espoir réel qu'on va prendre 40% de la facture en charge ?
Alors, moi, personnellement, j'ai reçu mes factures. Ouais. En fin de compte, qui sont des factures. Parce qu'en fait, on a un tarif été, un tarif hiver. Là, moi, personnellement, c'est simplement, j'ai doublé mon tarif. Ça a doublé. Donc, en fin de compte, on avait dit entre 2 et 2 fois et demi la facture. Donc là, moi, pour l'instant, je suis à 2 fois. Pour l'instant. En fait, je ne sais pas de quoi demain et à venir, parce que ça bouge beaucoup. Donc oui, j'ai le même son que toi. Je pense qu'on est aidé énormément, parce qu'en fin de compte, la boulangerie est quand même un commerce essentiel. Et si jamais, si en fait les boulangers ferment, ça peut être compliqué aussi.
Bien sûr.
Et par contre, il faut aussi maintenir ce commerce de proximité, qui est un lien social extrêmement important dans les quartiers, dans les rues de Paris et tout ça.
Merci en tout cas pour votre témoignage. On va changer de thème, on va en venir à la politique migratoire, parce que vous savez, le texte de loi sur l'immigration, eh bien, on en connaît beaucoup mieux les contours désormais. Il doit être présenté, vous le savez, en Conseil des ministres au mois de janvier, puis examiné par le Parlement dans les jours qui suivront. Alors que contient-il au juste ? Quelques éléments de réponse avec Quentin Gribel.
C'est un projet de loi de 25 articles qui lie humanité et fermeté d'après l'exécutif. Au programme, deux grands objectifs. Premièrement, mieux encadrer la présence sur le territoire. Les étrangers en situation irrégulière, coupables de vol ou de violence, pourront ainsi être expulsés plus facilement. En cas de menace grave à l'ordre public ou de non-respect des principes de la République, leurs titres de séjour pourront également être refusés, retirés ou non renouvelés. Enfin, un droit à la coercition devrait également être créé pour relever les empreintes digitales et prendre en photo les étrangers en situation irrégulière, contrôlés aux frontières notamment. Deuxième objectif, faciliter l'accès au travail. Un titre de séjour métier en tension va ainsi être lancé. Il concernera tout étranger qui exerce un métier en tension depuis au moins 8 mois sur les 24 derniers et qui vit en France depuis 3 ans. Et nouveauté, une carte de séjour destinée aux professionnels de santé et à leurs familles devrait également voir le jour, à condition que ces médecins, sages-femmes ou encore pharmaciens soient recrutés par un établissement de santé à but non lucratif. Le texte doit être présenté en Conseil des ministres en janvier. Il sera ensuite examiné au Sénat, puis à l'Assemblée nationale.
Bonjour Élodie Huchard du service politique. Qu'est-ce qu'on apprend le plus à travers l'interview croisée des deux ministres, en l'occurrence Gérald Darmanin et Olivier Dussopt ce matin ?
En fait, plus que sur le fond, parce qu'en réalité, un certain nombre de mesures qu'on vient de récapituler avaient déjà été dévoilées, c'est plutôt la stratégie du gouvernement qui reste totalement sur un et en même temps. D'un côté, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui incarne l'ordre et la fermeté. De l'autre, Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui vient de la gauche, qui serait plutôt sur l'intégration, notamment par le travail. Alors le but, il est évident, on le comprend bien, il faut une majorité pour ce texte, donc aller chercher des voix soit du côté de la gauche, soit du côté de la droite. Et très clairement, dans l'interview de ce matin, Gérald Darmanin est très clair, il parle à ses anciens camarades, si je puis dire, des Républicains, il leur dit « si la droite le veut, elle pourra modifier les critères des titres de séjour, je le sais parce que j'en viens, tout ce que les LR ont toujours demandé sur l'immigration, nous le proposons ». Et effectivement, la première version, les premières pistes intéressaient assez les Républicains, notamment sur comment expulser plus facilement. Mais quand il y a eu cette histoire de titre de séjour, ça grinçait un peu des dents du côté des Républicains parce qu'on craint des régularisations massives. Alors le gouvernement, les ministres s'en défendent dans le Figaro, mais finalement ça va être un vrai jeu d'équilibriste parce que chaque fois qu'ils vont dévoiler des mesures ou donner un petit peu soit à la gauche, soit à la droite. Inévitablement, de l'autre côté, ils vont décevoir. Alors, on voit bien que cette loi, a priori, c'est plutôt à la droite qu'elle va plaire. Mais les Républicains, pour l'instant, ne signent pas de chèque en blanc, ont aussi conscience de leur position de force. Vous avez besoin de nous pour faire passer cette loi. Donc, on va imposer nos conditions. Ça va être des vraies négociations. Il va falloir voir jusqu'où le gouvernement est prêt à aller, quelles concessions il peut accepter de la part des Républicains pour avoir leur voix.
Alors, Charles Stoul, ça va... Ça ne va pas être si simple que ça, mais c'est vrai que dans cette interview, c'est assez flagrant, surtout de la part de Gérald Darmanin, il est constamment fait référence aux LR, les LR, ma famille, mon ancienne famille politique, je les connais, donc je sais exactement ce qu'ils veulent. Il anticipe, mais comme le dit Élodie, ils ne vont pas signer un chèque en blanc. Hein. Eux aussi, ils veulent peser tout leur poids dans l'hémicycle désormais.
Bah, c'est la législature.
Comment vous allez faire pour les convaincre ?
C'est la législature qu'on a, majorité relative, donc pour chaque texte, il faut aller construire des majorités.
Il y a des choses qui ne sont pas encore très claires pour eux.
Il y a des discussions, c'est sûr, qui sont très nourries avec les LR. LR, ils sont 60, donc c'est un groupe important dans l'opposition, et puis on espère pouvoir travailler avec eux. Moi, ce que je retiens de ce projet de loi, qui maintenant est envoyé au Conseil d'État, c'est que c'est un projet de loi de bon sens, en réalité. C'est-à-dire qu'il y a des mesures extrêmement fermes et de durcissement de notre législation sur la partie... autorité. Il faudra réussir obligatoirement un test de français pour avoir un titre de séjour. On va durcir également les règles sur l'asile. Et puis, de l'autre côté, sur le volet économique, on a des pénuries de main-d'œuvre qui sont colossales dans beaucoup de secteurs de notre économie. Et beaucoup de chefs d'entreprise nous disent on ne trouve pas la main-d'œuvre ici. Et donc, il faut qu'on aille la chercher ailleurs. Voilà. Et donc, c'est un équilibre, je trouve, très intéressant. Et moi, j'en retiens que c'est beaucoup de bon sens.
Ludovine Delorgia, est-ce qu'il vous paraît si lisible que ça, ce texte ?
Alors, il me paraît malheureusement complètement contradictoire et faible. C'est-à-dire que du point de vue de l'humanité, pour ce qui est d'accueillir, on n'a plus les moyens d'accueillir. Il suffit de regarder le boulevard de la Chapelle pour le savoir. Et d'une, de deux, les visas de travail que nous allons donner, on va créer un appel d'air.
Il y a des conditions quand même.
On va créer un appel d'air.
Il y a des sur certains emplois, il faut être là depuis 3 ans, il faut avoir assuré le métier depuis 8 mois.
Voilà, et puis quand le métier sera plus en tension, et puis donc derrière c'est le regroupement familial, et puis etc. Ça va être évidemment, ça va susciter de nouvelles arrivées, et sachant qu'on vient récompenser des personnes qui sont entrées de manière illégale sur notre territoire. En fait, si on récompense ceux qui agissent dans le sens contraire des décisions de la France et des choix de la France, ça ne peut pas être une bonne solution pour l'avenir. Et donc, d'autres arriveront, vu notre faiblesse. Et moi, j'aurais envie de parler un peu d'humanité pour les Français, de respect du peuple français, parce que malgré tout, on est arrivé à un tel taux d'immigration qu'on soit pour ou contre, c'est même plus le sujet. Le sujet, c'est de savoir ce qu'on veut demain comme France, comme peuple français, comme population française. Et puis, la question de la fermeté, c'est dérisoire dans le texte. C'est des cotères sur une jambe de bois et à peu près rien de plus.
Judith Ventrum, et puis il y a aussi la question des OQTF qui est loin d'être réglée, d'autant que maintenant on va rétablir l'entièreté des visas accordés à l'Algérie, on l'a appris hier de la part Maroc et Tunisie. Bon, c'était un petit peu passé plus à la trappe, mais hier, grande annonce de Gérald Darmanin quand même.
Oui, alors dans l'interview qu'il a donnée au Figaro, Gérald Darmanin
parle d'une progression de 25% des reprises de leurs ressortissants par les pays du Maghreb quand leurs ressortissants sont déclarés indésirables, mais ça reste
assez... Les fameux laissez-passer consulaires.
Voilà. Ce qui est frappant dans ce texte, c'est qu'on voit très très bien l'efficacité immédiate des mesures destinées à donner des titres de séjour dans les métiers en tension. Lesquels métiers en tension, il faut regarder les chiffres de près. J'ai fait un dossier il y a 15 jours sur les ONG qui sont pour admettre qui veut en France, donc qui sont contre le contrôle de l'immigration, mais qui, dans les faits, gèrent les flux migratoires pour le gouvernement français. Je me suis intéressée à ces métiers en tension. Dans la restauration, par exemple, il manque en gros 200 000 personnes. Il y a 100 000 personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, c'est-à-dire des gens qui sont là de manière tout à fait légale, soit qu'ils soient français, soit qu'ils aient des titres de séjour, mais qui sont au chômage et qui ne travaillent pas dans la restauration. 100 000, 200 000. Il y a un petit problème là.
Bah, ils n'ont peut-être pas envie de travailler dans la restauration.
Ah oui, alors c'est peut-être la solution.
Peut-être pas leur forcer là-bas non plus.
La réforme de l'assurance chômage est censée servir à ça. Est-elle suffisante? C'est la question qui se pose. Évidemment. Et quand vous parlez à des restaurateurs, c'est ça qu'ils vous disent. Autre exemple de métier en tension, bah ça c'est extrêmement problématique, c'est les métiers de la santé. Là, pour le coup, on dépossède les pays d'où viennent les migrants qui ont ces compétences. Et ça, c'est extrêmement grave pour eux, tout en ne résolvant pas le problème pour nous. Mais ce qui est frappant, vous parliez de l'exécution des OQTF. Autant, je vous dis, dans le travail, on voit très bien ce qui va faciliter l'immigration. Autant, on ne voit pas bien ce qui va faciliter l'exécution des OQTF. Parce que la principale nouveauté du texte tel qu'on le lit, hein, il est à disposition aussi par le site du Figaro, le texte intégral, c'est d'introduire la notion de menace grave à l'ordre public, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État, comme motif
de renvoi. Donc autant dire que ça ne va pas arriver.
Mais toujours, quels sont les gros problèmes? Le problème, c'est la législation européenne, le droit à une vie familiale, à une vie personnelle. Ça voudra dire à chaque fois débat et à chaque fois débat juridique.
Élodie Huchard, il y a aussi une notion que moi, je n'ai pas très bien compris, c'est cette notion de double peine. Alors, il faut peut-être un peu creuser.
C'est une vaste blague.
Élodie va expliquer en deux mots et puis vous réagirez, bien sûr.
Alors, la double peine, le concept, c'est condamnation puis expulsion. Donc Gérald Darmanin dit c'est le retour quelque part de la double peine. Oui, mais pas pour tout le monde. C'est le retour de la double peine pour les étrangers condamnés à des peines d'au moins 10 ans de prison ou 5 ans en cas de récidive. On sait qu'en général, quelqu'un qui fait 10 ans de prison, on est quand même sur des faits extrêmement graves. Et puis, de toute façon, c'est toujours... Il y a un certain nombre de mesures, c'est ce que vous disiez en fait, qui sont « on veut expulser ». Plus facilement, sans doute que c'est la volonté du ministre de l'Intérieur, mais on le sait et on l'a vu quand même ces derniers temps, qu'on veuille expulser, c'est très bien, mais on expulse vers des pays qui ne veulent pas forcément récupérer ces ressortissants, d'autant plus quand ils auront été condamnés à plus de 10 ans de prison, donc ils ont commis des crimes ou des délits extrêmement graves, et donc forcément, si vous voulez expulser, mais que derrière, personne ne récupère ces délinquants-là, de toute façon...
Charles Zizenstuhl, on a quand même un peu l'impression que c'est...
Une précision pour compléter ce que dit Élodie, pour vous rendre compte de ce que c'est. Par exemple, proxénétisme, c'est 7 ans de prison maximum. Ça veut dire que vous êtes proxénète, vous n'êtes pas expulsable si vous êtes condamné pour proxénétisme. Vol avec violence ayant entraîné plus de 8 jours d'incapacité de travail, c'est pareil, 7 ans maximum. Vous n'êtes pas expulsé.
C'est rarement 7 ans. Charles Zizenstuhl, pour la majorité, quand même, c'est vers lui qu'on se tourne. On a quand même l'impression qu'il sert un peu à rien, ce texte. Là, on est en train de nous expliquer
C'est un des sujets dont on discute le plus depuis cet été.
Les cas concernés par les renvois.
S'il n'y avait rien dans les propositions du ministre de l'Intérieur et du ministre du Travail, on n'en discuterait pas.
Les cas concernés par les renvois, c'est ça.
Il y a beaucoup de choses dans ce texte qu'on en débat beaucoup, et je pense qu'au printemps, vous verrez qu'on fera encore beaucoup de plateaux et qu'il y aura beaucoup de discussion autour de ce texte. Moi, sur la double peine, je suis satisfait. On va la rétablir. Je tiens d'ailleurs à rappeler que historiquement, ça avait été supprimé par l'UMP. Les LR qui aujourd'hui considèrent que ce texte n'est pas assez dur. Bon, les LR, j'en viens aussi, donc je le dis avec une forme de malice, feraient mieux d'abord par balayer devant leur propre bilan. En tout cas, je pense que la double peine, nous allons la rétablir. C'est effectivement délit grave, crime. expulsion. Non, et sur ce point,
gravissime. Excusez-moi.
Mais attendez, je termine.
Garder un proxénète condamné.
Je termine.
En France,
je pense que sur ce point, dans le projet de loi, et là je le dis comme député, c'est un point de départ. Et il faudra évoluer. Moi, je considère que dans la discussion parlementaire que nous aurons, il faudra durcir sur ce point-là.
Ah.
Et je pense que les dispositions...
Vous venez bien de LR.
Parce que pour le moment, c'est le texte provisoire du gouvernement qui est envoyé au Conseil d'État.
Élodie, il faudra durcir. En guise de conclusion, très très peu de temps, Élodie, vous le savez.
Pour rejoindre ce que vous disiez à l'instant, le texte va d'abord passer au Sénat, qui a majorité de droite, avec sans doute une volonté de passer d'abord par le Sénat, qui va durcir le texte, pour qu'ensuite, quand ça arrive à l'Assemblée, les députés de droite aient leur compte.
Affaire à suivre. Début janvier. Merci. En tout cas, on fait une autre petite interruption et puis on va parler de ces femmes afghanes qui se sont vues barrer l'entrée à l'université. Une mesure qui est tombée comme ça, comme un couperet en quelques heures. Elles ont appris ça. C'est fini pour elles, en tout cas pour une durée indéterminée. Plus d'accès aux études supérieures. C'était déjà le cas pour le niveau secondaire, enfin élémentaire puis secondaire. On verra quelles conséquences ça a, bien sûr, pour toute une génération de femmes qui avaient encore un maigre espoir de pouvoir travailler à la sortie. À tout à l'heure.
En plus, un gars,
de retour avec vous pour la toute dernière partie de notre débat qu'on va reprendre dans un tout petit instant avec mes invités du jour. Ce sera juste après le rappel des titres, signé Mathieu Devez à nouveau.
Un jeune de 17 ans tué par balle à Grenoble. Les faits se sont produits hier soir dans un salon de coiffure du village olympique, un quartier sensible de la ville. La police judiciaire de Grenoble a été saisie de l'enquête. Le risque de coupure de courant s'éloigne pour le début de l'hiver. Selon le gestionnaire du réseau RTE, le risque est désormais moyen. Un mois auparavant, il était élevé. Une évolution favorable en grande partie grâce à la baisse de la consommation électrique ces dernières semaines et au redémarrage de plusieurs réacteurs nucléaires. Les ambulanciers britanniques sont en grève. Ils réclament une augmentation de leur salaire face à une inflation qui dépasse 10%. Le gouvernement ferme la porte à toute discussion et juge les demandes d'augmentation inabordables. Le ministre de la Santé accuse même les syndicats d'avoir sciemment choisi de faire du mal aux patients.
Merci beaucoup. Je vous disais que l'annonce était tombée comme un coup près. Les jeunes femmes afghanes inscrites à l'université désormais ne pourront plus y accéder. Et ce, pour une durée indéterminée, c'est ce qu'a dit le gouvernement. Une réaction qu'on a entendue et qui est quand même assez édifiante. Une de ces jeunes filles qui découvre donc les grilles fermées dit « Nous nous sommes toutes senties comme des oiseaux en cage. Nous nous sommes serrées les unes contre les autres. Nous avons crié et pleuré en nous demandant pourquoi cela nous arrivait. » Et c'est vrai que c'est tellement injuste que ça tombe comme ça, même si... On pouvait s'en douter, il y avait déjà des signaux. On va en parler avec Guillaume Dupuis, qui est avec nous via Skype. Bonjour, merci de nous rejoindre. Emmanuel Dupuis, vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, vice-président du club France-Afghanistan. Au fond, aujourd'hui, monsieur Dupuis, est-ce qu'on a parachevé le projet taliban, c'est-à-dire mettre les femmes dans une forme d'enfermement inexorable ?
Je pense qu'on a été naïf d'en douter. Et depuis la prise de pouvoir le 15 août 2021, les talibans font exactement ce qu'ils avaient prévu de faire, c'est-à-dire la stricte application de la charia. Ça a été rappelé par le chef suprême des talibans il y a quelques jours, où il a enjoint les juges, et notamment les juges de la Cour suprême, à mener avec zèle l'application stricte de la charia. C'est la raison pour laquelle on a pu, hélas, voir, au-delà de la fermeture des universités auxquelles vous faites référence, le retour tristement accolé au passé précédent des talibans, des exécutions publiques. La première a eu lieu le 7 décembre dernier. Le chef suprême des talibans, Ayatollah Akhundzada, a appelé à une stricte application de cette charia, avec le retour des exécutions sommaires, des flagellations, des lapidations ou des amputations, et donc de facto la fermeture de ces universités, qui ne vient que confirmer ce qu'on avait déjà vu, puisque le 23 mars dernier, on s'en était à juste titre offusqué, les jeunes filles au-delà de 12 ans ne pouvaient plus être scolarisées également. Donc c'est la confirmation que nous avons été très naïfs vis-à-vis de ce régime.
On parlait de génération sacrifiée parce qu'il y a une analphabétisation qui est déjà importante et qui va encore plus s'accentuer. Et puis c'est terrible pour celles qui avaient eu accès à l'éducation ces dernières années, qui vont vivre cette frustration jour après jour, sans compter le manque à gagner financier, parce qu'on a appris quand même que beaucoup pouvaient subvenir aux besoins de leur famille par ce biais. Alors l'Europe, vous le disiez, crie, mais quels sont ses moyens de pression réels contre ce régime ?
Bah, les bonnes impressions que nous avons, c'est évidemment de ne pas les financer. Et pourtant, malgré la situation que vous avez décrite, avec ce chronogramme que vous rappelez, en rappelant évidemment, en confirmant ce que vous avez évoqué, le fait qu'en 2002, il n'y avait que 40% des jeunes filles qui étaient scolarisées au-delà du primaire jusqu'à l'éducation secondaire. En 2018, donc en plein mobilisation internationale, c'est près de 83% de ces jeunes filles donc, qui pouvaient accéder à l'éducation supérieure. Or, l'ONU, dans une forme de prise au piège, a été obligée de se rendre compte de l'urgence de la situation humanitaire. 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et s'il n'y avait les 40 millions de dollars d'aide qui chaque semaine proviennent des agences onusiennes, c'est près de 20 millions d'Afghans qui souffriraient du froid et d'une situation alimentaire particulièrement détériorée. Donc il y a ce paradoxe. Le régime taliban ne fait rien pour se rendre agréable aux yeux du monde, si je puis m'exprimer ainsi. Et pourtant, nous sommes obligés d'aider un pays qui est sous assistance respiratoire, avec, encore une fois, les 19 millions de jeunes, de femmes, tout court, qui sont prises au piège de cette stratégie.
Vous restez avec nous, bien sûr. Je vais faire réagir nos autres invités en plateau. Julie Weintraub, c'est la chronique d'une mort mentale et même physique, telle qu'il l'a décrit, hein, M. Dupuis, annoncée. Oui, on savait ça. Bien que ça allait aboutir à ça.
Oui. Je pense, oui. Enfin, là, bon, il y avait quelques discours minoritaires nous expliquant oui. que les talibans avaient évolué depuis la dernière fois qu'ils avaient exercé le pouvoir entre 1996 et 2001. En fait, ce n'est pas de la naïveté, c'est du cynisme. Les Américains ont échangé contre la promesse d'arrêter d'exporter le terrorisme djihadiste, le pouvoir aux talibans. C'est-à-dire la mise sous coupe, la mise sous tutelle d'un pays tout entier. Moi, ce qui m'intéresserait, mais c'est la question que je voulais poser à Emmanuel Dupuis, c'est le degré d'adhésion des Afghans eux-mêmes à la charia. Parce que quand vous lisez des récits, des reportages de la vie des femmes, je ne parle pas de Kaboul, mais hors de Kaboul, dans les campagnes, c'est quand même très très proche.
On nous pose la question tout de suite. Si vous pouvez nous répondre sur ce point, à quel niveau et à quel point on adhère réellement, parce que les hommes aussi ont connu un semblant de liberté pendant 20 ans.
Bah, malheureusement, les Afghans n'ont pas trop le choix et ils n'ont pas trop la possibilité de s'opposer à la stricte application de la charia. Ils sont sous la coupe d'un régime qui a été en fait mis en place par un régime voisin, le Pakistan. D'ailleurs, il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que la décision inique des talibans de fermer les universités ne trouve aucune adhésion. Aucun pays ne reconnaît les talibans et même leurs soutiens les plus proches, je pense notamment au Pakistan ou à la Turquie, ils se sont opposés en disant que c'était une décision inconséquente. Alors, pour répondre à la question de Judith Weintraub, il n'y a pas vraiment de possibilité de savoir si les Afghans adhèrent à la charia, puisqu'on ne leur pose pas la question et ils n'ont pas le choix. Néanmoins, la stricte application de la charia est quelque chose de tout récent, puisque il n'y a que 3 semaines que cela a été mis en place. Maintenant, il faudra surtout voir comment la communauté internationale réagit par rapport à cela.
Merci beaucoup, Emmanuel Dupuis, d'être resté en notre compagnie. Dernière réaction, vraiment, en quelques secondes, Ludovine de la Recherche.
Très rapidement, effectivement, c'est une décision gravissime. L'instruction, ou l'absence d'instruction, plutôt rend une population beaucoup plus manipulable, beaucoup plus fanatique aussi parfois. Et puis, ce sont les femmes qui, généralement, instruisent ou font le début de l'instruction des enfants. Ça va les rendre incapables de cela également. Et j'ajoute que l'Europe le condamne et s'en plaint, mais elle fait elle-même la promotion du voile dans certaines de ses campagnes.
Charles Eisenstuhl, en quelques secondes, le législateur français aussi, peut-être qu'il peut essayer de trouver des leviers pour appuyer sur ce pays.
Bah, les responsables politiques français, ils doivent condamner avec la plus grande fermeté.
C'est
ce qu'a fait le gouvernement. Et puis, ça permet aussi de rappeler que derrière tout ça, il y a une idéologie qui est l'islamisme. Alors, l'islamisme en Afghanistan, c'est vraiment l'islamisme le plus extrême, le plus dégénéré. Mais en réalité, c'est la même internationale islamiste et que certaines forces politiques, d'ailleurs à l'extrême gauche de notre pays, s'amusent à promouvoir de temps en temps, à défendre.
Merci beaucoup. C'est tout le temps qui nous reste. Je suis désolée, vraiment, on déborde largement en plus aujourd'hui dans cette émission. Dans un instant, Punchline avec Laurence Ferrari. Merci à tous les trois.
Merci.
À très bientôt. À demain pour ceux qui nous rejoignent pour 90 minutes info tous les jours à 15h30.
C'est un courant de l'islam, pas de l'islamisme.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.